Intermède. Lift, Sept et Chonaille.
Intermède 9, Lift. Lift n'avait encore jamais pillé un palais. Ça semblait très dangereux. Pas parce qu'elle risquait de se faire prendre. Simplement parce que, une fois qu'on avait pillé un palais, où pouvait-on aller ensuite? Elle grimpa sur le mur extérieur pour étudier le terrain. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur, arbres, rochers, bâtiments, reflétait bizarrement la lumière des étoiles. Un bâtiment de forme bulbeuse saillait au milieu de l'ensemble, comme une bulle sur un étang. En réalité, la plupart des bâtiments possédaient cette même forme circulaire, souvent agrémentée de petites protubérances qui saillaient du sommet. Cet endroit de toutes les famines ne possédait pas une seule ligne droite, rien que des courbes à perte de vue. Les compagnons de Lift grimpèrent à leur tour pour jeter un coup d'œil par-dessus le haut du mur. C'était là une bande tapageuse et bagarreuse. Six hommes, soi-disant virtuoses en matière de vol, et ils ne savaient même pas grimper correctement au mur. Le palais de bronze lui-même, souffla Hawkins. De bronze? C'est de ça qu'il est entièrement fait? Demanda Lift, assise sur le mur avec une jambe qui pendait par-dessus. On dirait un tas de nichons. Les autres se tournèrent vers elle, atterrés. Ils étaient tous aséens, avec la peau et les cheveux sombres. Elle-même était Réchi, originaire des îles du Nord. C'était ce que lui avait dit sa mère, bien que Lift n'y soit jamais allé. Quoi ? Demanda Hawkins. Ben si, des nichons, répéta Lift en pointant du doigt. Regardez, c'est comme une bonne femme allongée sur le dos. Ces pointes là, sur le dessus, on dirait des tétons. Le type qui a construit cet endroit, il devait être célibataire depuis un sacré bout de temps. Hawkins se tourna vers l'un de ses compagnons. À l'aide de leurs cordes, ils redescendirent le long de l'extérieur du mur pour s'entretenir à mi-voix. Le terrain paraît vide de ce côté-ci. Comme mon informateur me l'avait dit, déclara Hawkins. Il était responsable du groupe. Il avait un nez qui donnait l'impression que quelqu'un l'avait saisi quand il était gamin pour tirer très, très fort dessus. Lift s'étonnait qu'il ne cogne pas les gens avec quand il se retournait. Tout le monde se concentre sur le choix du nouveau premier à Cassix, déclara Maxine. Peut-être qu'on va vraiment y arriver. Piller le palais de bronze lui-même et pile sous le nez du viséra. Et c'est dangereux ? Demanda le neveu de Hawkins. C'était un adolescent avec qui la puberté n'avait pas été clémente, entre sa figure, sa voix et ses jambes grêles. Chut ! Aboya Hawkins. Non, intervint Zigzig. Le gamin a le droit de faire preuve d'un peu de prudence. Ce sera très dangereux. Zigzig était considéré comme l'intellectuel du groupe au motif qu'il était capable de jurer dans trois langues. Parler d'un exploit. Il était vêtu d'habits sophistiqués là où la plupart des autres portaient du noir. « Ce sera le chaos, » poursuivit Zigzig, « car beaucoup de gens traversent le palais ce soir. Mais il y aura aussi du danger, de très nombreux gardes du corps et une grande méfiance générale. » Zigzig n'était plus tout jeune et il était le seul membre du groupe que Lift connaissait bien. Elle n'arrivait pas à prononcer son nom. Ce « cuc » à la fin, quand on le prononçait correctement, ressemblait au bruit que fait quelqu'un qui s'étrangle. Elle l'appelait simplement Tig. « Zigzig », reprit Hawkins. « Ouais, un bruit d'étranglement. C'est toi qui as lancé cette idée. Ne me dis pas que tu te défiles maintenant. »«
Je ne me défile pas. Je suggère simplement un peu de prudence. »
Lift se pencha vers eux par-dessus le mur.
« Arrêtez de vous chamailler, » dit-elle. « Allons-y, j'ai faim. »
Hawkins leva la tête.
« Mais pourquoi est-ce qu'on l'a emmenée ?»«
Elle sera utile, » répondit Zigzig. « Tu verras. »«
Ce n'est qu'une gamine. »«
C'est une jeune fille. »« Elle a au moins 12 ans. »«
J'ai pas 12 ans, »
aboya Lift en se penchant vers eux. Ils se tournèrent dans sa direction.
« Je les ai pas, » répéta-t-elle.
« 12, c'est un chiffre porte-malheur. »
Elle leva les mains.
« J'ai juste comme ça. »«
10 ?»
demanda Zigzig.
« Ah bon, ça fait ça ?»«
Alors, ouais, 10. »« 10. »
Elle baissa les mains. Si je peux pas les compter sur mes doigts, ça porte malheur. Elle avait ce nombre d'années-là, depuis maintenant 3 ans. Voilà.
Ça fait pas mal d'âges qui portent malheur, répondit Hawkin sur un ton amusé.
Ben ouais, acquiesça-t-elle. Elle balaya de nouveau le terrain du regard, puis se tourna dans la direction par laquelle ils étaient arrivés. La direction de la ville. Un homme remontait l'une des rues qui menait au palais. Ses vêtements sombres se fondaient dans l'obscurité, mais ses boutons d'argent scintillaient chaque fois qu'il passait sous un lampadaire. « Nom des foudres !» se dit-elle, un frisson courant le long de son échine. « Moi qui croyais l'avoir semé. » Elle baissa la tête vers ses compagnons.
« Vous me suivez ou pas ? Parce que moi j'y vais !»
Lift se glissa par-dessus le sommet et se laissa tomber dans la cour du palais. Elle y resta accroupie, éprouvant la froideur du sol. Oui, c'était du métal. Tout ici était en bronze. Les riches, décida-t-elle, adoraient s'en tenir à un thème. Tandis que les garçons cessaient enfin de se disputer pour se mettre à grimper, une piste de lianes sinueuses sortit de l'obscurité pour approcher de Lift. Elle ressemblait à un petit filet d'eau renversé, avançant sur le sol. Ici et là, des fragments de cristal limpides sortaient des lianes, pareils à des éclats de quartz dans une pierre autrement sombre. Ils n'étaient pas tranchants, mais lisses comme du verre poli. Ils ne dégageaient aucun éclat de fulgiflamme. Les lianes poussaient très rapidement et se recourbaient les unes autour des autres, s'enchevêtrant pour former un visage. « Maîtresse, » demanda le visage, « est-ce bien judicieux ?»«
Salut, néantifère !» lui lança Lift en balayant le terrain du regard.
« Je ne suis pas un néantifère, » protesta-t-il. « Et vous le savez bien, alors arrêtez de dire ça !»
Lift sourit. « Tu es mon néantifère domestique, et aucun mensonge n'y changera rien. Je t'ai capturé. Cette fois, on n'est pas venu prendre des âmes. Juste voler un peu, le genre de truc qui n'a jamais fait de mal à personne. »
Le visage de Lian, il disait s'appeler Windle, soupira. Lift traversa le sol de bronze en courant jusqu'à un arbre qui était, bien entendu, lui aussi fait de bronze. Hawkin avait choisi la partie la plus sombre de la nuit, entre deux lunes, pour s'infiltrer en ces lieux. Mais par une nuit sans nuages comme celle-ci, la lumière des étoiles suffisait pour y voir. Windle poussa jusqu'à elle, laissant une petite piste de lianes que les gens ne semblaient pas voir. Les lianes durcissaient après être restées quelques instants immobiles, comme si elles se transformaient brièvement en cristal solide, puis tombaient en poussière. Les gens les apercevaient parfois, même si, évidemment, ils ne voyaient jamais Windle. « Je suis un Spren, » lui dit-il. « Je fais partie d'une fière et noble... » « Chut !» l'interrompit Lift en observant les lieux depuis sa cachette derrière l'arbre de bronze. Une voiture ouverte passa dans l'allée, transportant des Azéens de haut rang. Ça se voyait à leurs manteaux. De grands manteaux flottants avec de très larges manches et des motifs qui juraient entre eux. Ils ressemblaient tous à des gamins qui auraient farfouillé dans la garde-robe de leurs parents. Cela dit, les chapeaux étaient très chics. Les voleurs la suivirent avec une discrétion raisonnable. Ils n'étaient pas si mauvais que ça en réalité, même s'ils ne savaient pas grimper correctement au mur. Ils se rassemblèrent autour d'elle et Tigzik se leva, redressa son manteau.
Une imitation de ceux que portaient les riches scribes travaillant pour le gouvernement.
Ici, en Azir, travailler pour le gouvernement était hyper important. Tous les autres métiers étaient qualifiés de singuliers, quoi que ça puisse vouloir dire. « Prêt ?» demanda Tigzik à Maxine, l'autre voleur vêtu d'habits sophistiqués. Maxine hocha la tête et tous deux prirent à droite, en direction du jardin de sculpture du palais. Les gens importants devaient traîner par là-bas, à essayer de décider qui deviendrait le prochain premier. C'était un métier sacrément dangereux. Les deux derniers s'étaient fait couper la tête par un type en blanc armé d'une lame d'éclat. Criante famine. Le premier, le plus récent, n'avait pas duré 2 jours. Une fois Tigzik et Maxine partis, Lift ne devait plus se soucier que des 4 autres. Hawkin, son neveu, et 2 frères maigres et taiseux qui plongeaient constamment la main sous leur manteau pour y tâter leur couteau. Lift n'aimait pas les gens comme eux. Les vols ne devaient pas laisser de cadavres. C'était facile de laisser des cadavres. Il n'y avait aucun défi dans l'acte de voler si on pouvait se contenter de tuer toute personne qui vous repérait.
« Tu peux nous faire entrer, hein ?»
demanda Hawkin à Lift. Elle leva les yeux d'un geste exagéré. puis se faufila sur le sol de bronze en direction de l'édifice principal du palais. On dirait vraiment un saint. Windle se matérialisait le long du sol à côté d'elle, laissant derrière lui sa piste de lianes dont jaillissaient de minuscules fragments de cristal ici et là. Il était aussi rapide et sinueux qu'une anguille en mouvement, sauf qu'il poussait au lieu de se déplacer. Les néantifères étaient une drôle d'espèce. « Tu es bien consciente que ce n'est pas moi qui t'ai choisi, » dit-il au moyen d'un visage qui apparut dans les lianes tandis qu'ils avançaient. Comme il poussait très vite à côté d'elle, les lèvres semblaient remuer. « Moi, je voulais choisir une matrone iriale distinguée. Une grand-mère, une jardinière accomplie. Mais non, le cercle a dit que nous devions te choisir. Elle a eu recours à l'ancienne magie, qu'ils ont dit. Notre mère l'a bénie, qu'ils ont dit. Elle sera jeune et nous pourrons la façonner, qu'ils ont dit. Eh bien, ce n'est pas eux qui doivent supporter la ferme, néantifère, siffla Lift en s'approchant du mur du palais. Ou je vais me baigner dans l'eau bénite et aller écouter les prêtres. Peut-être même me faire exorciser. Lift s'avança prudemment, en biais jusqu'à être en mesure d'y voir, au-delà de la courbe du mur, les gardes en train de patrouiller. Des hommes vêtus de gilets à motifs et de casquettes avec de longues hallebardes. Elle leva les yeux pour inspecter le côté du mur. Il se mit à saillir juste au-dessus d'elle, comme un bouton de roche, avant de terminer en pointe un peu plus loin. Il était fait de bronze lisse, sans poignée. Elle attendit que les gardes se soient un peu éloignés. « Bon, » murmura-t-elle à Windle, « tu dois faire ce que je dis. »« Certainement pas. Mais si, je t'ai capturé, comme dans les histoires. » « C'est moi qui suis venu vers toi, » répondit Windle. « C'est de moi que tu tiens tes pouvoirs. Est-ce qu'il t'arrive de m'écouter ?»« Fais-moi monter vers le haut du mur, » répondit Lift en tendant le doigt. Windle soupira, mais obéit et se mit à ramper le long du mur en dessinant un large motif en boucle. Lift sauta, attrapa les petites poignées créées par la liane, qui adhéraient au mur grâce à des milliers de tiges se déployant autour d'elle, munies de disques adhésifs. Windle la précédait pour créer une sorte d'échelle. Ce n'était pas facile. Criant de famine, c'était même franchement difficile avec cette forme arrondie. Et les poignées de Windle n'étaient pas très grandes. Mais elle se débrouilla pour grimper pratiquement jusqu'au sommet du dôme du bâtiment, où des fenêtres donnaient sur le terrain. Elle jeta un coup d'œil en direction de la ville. Aucune trace de l'homme en uniforme noir. Peut-être l'avait-elle perdu. Elle se retourna pour examiner la fenêtre. Son joli châssis de bois contenait une vitre épaisse mais orientée vers l'est. C'était injuste que les gens d'Azimir soient si bien protégés des tempêtes majeures. Ils auraient dû vivre avec le vent, comme les gens normaux. « Il faut qu'on néantifie ça, » dit-elle en désignant la fenêtre. « Es-tu bien consciente, » répliqua Windle, « qu'alors que tu affirmes être une voleuse virtuose, c'est moi qui fais tout le travail dans cette relation. C'est toi aussi qui passes ton temps à te plaindre, » dit-elle. Comment est-ce qu'on va traverser ? Tu as les graines ? Elle hocha la tête et fouilla dans sa poche, puis dans l'autre, puis dans celle de derrière. Ah, voilà. Elle en tira une poignée de graines. Je ne peux pas affecter le royaume physique, sauf d'une manière infime, répondit Windle. Ça signifie que tu vas devoir utiliser l'investiture pour... Lift bâilla. Utiliser l'investiture pour... Elle bâilla encore plus fort. Ces famines de néantifères ne comprenaient jamais les allusions. Windle soupira. « Disperse les graines sur le châssis. » Elle s'exécuta et jeta la poignée de graines contre la fenêtre. « Ton lien avec moi t'accorde deux classes primaires de dons, » déclara Windle. « La première, c'est la manipulation de la friction, que tu as déjà découverte. Arrête un peu de bâiller. Nous l'utilisons déjà depuis de nombreuses semaines, et il est temps que tu apprennes la seconde, qui est le pouvoir de croissance. » Tu n'es pas prête pour ce qu'on appelait autrefois la régénération, la guérison de... Lift appuya la main contre les graines. Puis, convoqua son pouvoir génial. Elle ne savait pas exactement comment il s'y prenait. Elle le faisait, tout simplement. Ça lui était venu à peu près en même temps que Windle était apparu. Il ne parlait pas à l'époque. Elle regrettait un peu cette période-là. Sa main dégageait un faible éclat de lumière blanche, comme si de la vapeur s'échappait de la peau. Les graines exposées à la lumière se mirent à pousser très vite. Des lianes surgirent des graines et se faufilèrent dans les interstices entre fenêtres et châssis. Les lianes poussaient avec des bruits d'effort, obéissant à la volonté de Lift. Le verre se fissura, puis le châssis de la fenêtre s'ouvrit brutalement. Lift sourit.
« Bien joué !» approuva Windle. « Nous allons faire de toi une danse-corde !»
L'estomac de Lift grondait. À quand remontait son dernier repas ? Elle avait utilisé une grande partie de son pouvoir génial
en s'entraînant un peu plus tôt.
Elle aurait sans doute dû voler quelque chose à manger. Elle était beaucoup moins géniale quand elle avait faim. Elle se faufila par la fenêtre. C'était utile de disposer d'un nez antifer, bien qu'elle ne soit pas totalement sûre que ses pouvoirs lui viennent de lui. Ça semblait le genre de choses sur lesquelles un nez antifer mentirait. Elle l'avait vraiment capturé, aucun doute là-dessus. Elle avait utilisé des mots. Un nez antifer ne possédait pas de corps, pas vraiment.
Pour attraper ce genre de créature,
il fallait utiliser des mots. Tout le monde savait ça. Tout comme les jurons attiraient à vous des choses maléfiques. Elle dut sortir une sphère, une marque de diamant, son porte-bonheur, pour y voir correctement à l'intérieur. La petite chambre était décorée d'après la mode aséenne, avec des tapis aux motifs complexes et du tissu sur les murs, essentiellement rouge et or ici. Ces motifs signifiaient beaucoup pour les Aséens. Ils étaient comme des mots. Elle regarda par la fenêtre. Elle devait bien avoir semé l'obscur, l'homme en noir et argent avec une marque de naissance pâle sur la joue. L'homme au regard mort et inerte. Il n'avait tout de même pas pu la suivre depuis Marabétia. C'était à un demi-continent de là. Enfin, un quart de continent au minimum. Rassurée, elle déroula la corde qu'elle portait autour de la taille et sur les épaules. Elle l'attacha à la porte d'un placard intégré, puis en fit sortir l'extrémité par la fenêtre. Elle se crispa quand les hommes se mirent à grimper. Non loin de là, Windle se mit à pousser autour d'un montant du lit, enroulé comme une anguille céleste. Elle entendit des murmures en bas.
« Vous avez vu ça ? Elle a carrément grimpé. Je ne vois aucune poignée. Comment ?
Chut ! » C'était Hawkin. Lift se mit à fouiller des meubles et des tiroirs tandis que les garçons se hissaient par la fenêtre, l'un après l'autre. Une fois à l'intérieur, les voleurs remontèrent la corde et fermèrent la fenêtre de leur mieux. Hawkin étudia les lianes qu'elle avait fait pousser sur le châssis à l'aide des graines. Lift fourra la tête au fond d'une penderie et se mit à y farfouiller.
« Y a rien que des chaussures moisies dans ce machin !»«
Mon neveu et toi, » lui dit Hawkin, « vous allez garder cette pièce. Nous trois, on va fouiller les chambres proches. On revient très vite. »«
Je parie que vous allez récupérer tout un sac de chaussures moisies, » répondit Lift en sortant de la penderie.
« Petite ignorante !»
répliqua Hawkin en désignant la penderie. L'un des hommes s'empara des chaussures et des tenues qu'elle contenait et les fourra dans un sac.
« Ces vêtements se vendront une fortune. C'est exactement ce qu'on recherche. »«
Et les vraies richesses ?» demanda Lift. « Les sphères, les bijoux, les œuvres d'art » Elle-même s'intéressait peu à ces choses-là, mais elle avait cru que c'était ce que cherchait Hawkin.
« Tout ça sera beaucoup trop bien gardé, » répondit Hawkin, tandis que ses deux associés s'affairaient à emporter les vêtements contenus dans cette pièce. La différence entre un voleur débrouillard et un voleur mort, c'est de savoir quand s'échapper avec son butin. Cette prise-là nous permettra de vivre dans le luxe pendant un an ou deux. C'est suffisant.
L'un des frères passa la tête dans le couloir par la porte ouverte. Il fit signe aux autres, et tous trois sortirent discrètement.
« Guette le signal !» ordonna Hawkin à son neveu,
avant de repousser la porte derrière lui pour la laisser entrebâiller. Tixic et son complice, en bas, allaient guetter tout bruit inhabituel. Si quoi que ce soit semblait clocher, ils s'éloigneraient discrètement et utiliseraient leur sifflet. Le neveu de Hawkin s'accroupit près de la fenêtre pour écouter. Il semblait prendre sa tâche très au sérieux. Il paraissait avoir dans les 16 ans, un âge porte-malheur.
« Comment t'as fait pour grimper au mur comme ça ?»
demanda le jeune homme.
« Avec un peu de jugeote, » répondit Lift, « et de la salive. »
Il la regarda d'un air pensif.
« Ma salive, elle est magique !»
Il sembla la croire. Quel crétin.
« C'est étrange pour toi d'être ici ?»
demanda-t-il. « Loin de ton peuple ?»
Elle se distinguait avec ses cheveux noirs et raides, qu'elle portait jusqu'à la taille, sa peau brun clair, ses traits ronds. Tout le monde l'identifiait immédiatement comme Rishi.
« J'en sais rien, » répondit-elle en se dirigeant vers la porte. « J'ai jamais vécu là-bas. »«
Tu ne viens pas des îles ?»«
Non, j'ai grandi à Ral et Lorim. »«
La cité des ombres ?»«
Ouais. »«
Est-ce qu'elle est... »«
Ouais, exactement comme on raconte. »
Elle jeta un coup d'œil par la porte. Hawkin et les autres étaient hors de portée. Le couloir était fait de bronze. les murs et tout le reste. Mais un tapis rouge et bleu, orné de nombreux motifs de petites lianes, en parcourait le centre. Des tableaux étaient accrochés au mur. Elle ouvrit entièrement la porte et sortit.
« Lift !»
lança le neveu en se précipitant vers la porte.
« Ils nous ont dit d'attendre ici !»«
Et alors ?»«
Alors on devrait attendre ici !»« Il ne faut pas qu'on attire d'ennuis à oncle Wookin !»«
Ça sert à quoi de s'infiltrer dans un palais si c'est pas pour s'attirer des ennuis ?» Elle secoua la tête. Qu'ils étaient curieux, ces gens-là.
« Ça devrait être un endroit intéressant, avec tous les riches qui traînent dans le coin. »
Il devrait y avoir de la nourriture vraiment délicieuse ici. Elle s'avança dans le couloir à pas feutrés et Windle se mit à pousser près d'elle le long du sol. Détail intéressant, le neveu la suivit. Elle s'était attendue à ce qu'il reste dans la pièce.
« On ne devrait pas faire ça !»
dit-il, tandis qu'il passait devant une porte entrouverte, dont s'échappaient des bruits traînants, où Kin et ses hommes en train de piller entièrement les lieux.
« Alors reste !»
chuchota Lift en atteignant un grand escalier. En bas, des serviteurs allaient et venaient à toute allure, avec même quelques parches parmi eux. Mais elle n'entrevit personne qui porte l'un de ses manteaux.
« Ils sont où, les gens importants ?»«
En train de lire des formulaires !»
répondit le neveu à côté d'elle.
« Des formulaires ?»«
Ben ouais !»
lança-t-il.
« Maintenant que le premier est mort, les vizirs, les scribes et les arbitres ont tous reçu l'occasion de remplir la paperasse adéquate pour présenter leur candidature, à le remplacer.
Il faut présenter sa candidature pour être empereur ?
Ben ouais, confirma-t-il. Ça nécessite tout un tas de paperasses. Et une dissertation. Faut qu'elle soit sacrément bonne pour avoir ce boulot.
Bourrasque, vous êtes complètement cinglés, vous autres.
Parce que les autres nations font ça mieux que nous, avec leur guerre de succession sanglante. Comme ça, au moins, tout le monde a une chance. Même les plus humbles des clercs peuvent soumettre la paperasse. On peut même être singulier et finir sur le trône, si on est assez convaincant. C'est arrivé une fois.
Complètement cinglé,
dit la fille qui parle toute seule.
Lift leva vivement les yeux vers lui.
Ne prétends pas le contraire,
dit-il.
Je t'ai vu faire ça, parler dans le vide, comme s'il y avait quelqu'un.
Comment tu t'appelles ?
Demanda-t-elle.
Gox.
Oui.
Bon. On va dire go.
C'est pas parce que je suis cinglée que je parle toute seule.
Ah non?
C'est parce que je suis géniale.
Elle se mit à descendre les marches, attendit une interruption entre les passages des serviteurs, puis se dirigea vers un placard situé de l'autre côté.
Gox se jura, puis la suivit.
Lift fut tentée d'utiliser son pouvoir génial pour glisser rapidement le long du sol, mais elle n'en avait pas encore besoin. Et puis, Windle se plaignait constamment qu'elle utilisait trop souvent ce pouvoir génial. Qu'elle courait un risque de malnutrition. Quoi que ça puisse bien vouloir dire. Elle se faufila jusqu'au placard, utilisant simplement ses talents ordinaires pour la furtivité, et entra à l'intérieur. Gox s'y précipita avec elle juste avant qu'elle le referme. Ils entendirent derrière eux de la vaisselle cliqueter sur une desserte. Ils tenaient à grand-peine à deux dans cet espace. Quand Gox remua, suscitant de nouveaux cliquetis, elle lui asséna un coup de coude. Il s'immobilisa tandis que deux parches passaient, portant de grands tonneaux de vin.
Tu devrais retourner là-haut,
lui chuchota Lift.
Ça pourrait être dangereux.
Ah bon? Saint-Raval, c'est dangereux de se faufiler dans le palais royal?
Merci, je m'en étais pas rendu compte.
Je suis sincère, insista Lift en jetant un coup d'œil en dehors du placard.
Remonte et file quand Hawkin reviendra.
Il m'abandonnera en un battement de cœur.
Et toi aussi par la même occasion.
Par ailleurs, elle n'avait pas envie d'être géniale avec Gox dans les parages. Ça susciterait des questions et des rumeurs. Elle détestait l'un comme l'autre. Pour une fois, elle avait envie de pouvoir rester un certain temps au même endroit, sans se retrouver obligée de s'enfuir.
« Non !» répondit Gox tout bas. « Si tu voles quelque chose qui est de la valeur, j'en veux une part. Et alors, peut-être que Hawkin arrêtera de m'obliger à rester en arrière et de me donner les boulots les plus faciles. »
Tiens, il avait donc un peu de cran. Une servante passa, portant un grand plateau rempli d'assiettes. Les odeurs de nourriture qui s'en échappaient firent gronder l'estomac de Lift. De la nourriture de riche. C'était tellement savoureux. Lift regarda la femme s'éloigner, puis s'échappa du placard pour la suivre. Les choses allaient devenir compliquées avec Gox dans son sillage. Son oncle l'avait bien formé, mais il n'était pas facile de se déplacer discrètement dans un bâtiment bondé. La servante ouvrit une porte cachée dans le mur. Elle donnait sur les couloirs réservés aux serviteurs. Liv te rattrapa la porte avant qu'elle ne se referme, patienta le temps de quelques battements de cœur, puis l'ouvrit discrètement et s'y faufila. Les trois couloirs étaient mal éclairés, imprégnés de l'odeur de la nourriture qui venait de passer. Gox entra derrière Lift, puis referma la porte en silence. La servante disparut à un tournant un peu plus loin. Il devait y avoir beaucoup de passages comme celui-ci dans le palais. Derrière Lift, Windle poussa autour du châssis de porte, sous forme d'un amas de lianes vert sombre évoquant des champignons, qui masqua la porte puis le mur derrière elle. Il forma un visage parmi les lianes et les éclats de cristal, puis secoua la tête. « Trop étroit ?» demanda Lift. Il fit signe que oui. « Il fait noir là-dedans. C'est difficile de nous voir. »«
Le sol vibre, maîtresse. Quelqu'un vient par ici. »
Elle lança un regard nostalgique dans la direction où la servante avait emporté la nourriture, puis écarta Gox pour entrer de nouveau dans le couloir principal. Gox jura.
« Est-ce que tu sais au moins ce que tu fais ?»«
Non, » répondit-elle, avant de se faufiler à un tournant pour pénétrer dans un grand couloir bordé d'une alternance de lampes à gemmes vertes et jaunes. Malheureusement, un serviteur vêtu d'un uniforme à midonné noir et blanc venait droit vers elle. Gox laissa échapper un couinement inquiet et courut se remettre aux abris. Lift se tint bien droite, joignit les mains derrière son dos et s'avança sans se presser. Elle passa devant l'homme. Son uniforme le désignait comme quelqu'un d'important pour un serviteur.
« Vous, là !» aboya-t-il. « De quoi s'agit-il ? »
« Ma maîtresse veut du gâteau, » dit Lift en levant le menton.
« Au nom de Yaezir, on a servi à manger dans les jardins. Il y a du gâteau là-bas. »
« Pas le bon, » répliqua Lift. « Ma maîtresse veut du gâteau aux fruits rouges. » L'homme leva les bras au ciel.
« Les cuisines sont dans l'autre sens, » répondit-il. « Essayez de persuader la cuisinière, mais elle risque de vous trancher les mains avant d'accepter une nouvelle requête spéciale. Foudre de scribes de la campagne, les régimes spéciaux doivent nous être indiqués à l'avance, avec les formulaires adéquats. »
Il s'éloigna d'un pas furieux, laissant Lift l'observer, main derrière le dos. Gox sortit furtivement de sa cachette.
« Je croyais qu'on était mort, cette fois. »«
Ne dis pas de bêtises, » répliqua Lift en avançant d'un pas pressé dans le couloir. « C'est pas encore la partie dangereuse. » À l'autre extrémité, le couloir en croisait un deuxième, avec le même tapis large en son milieu, les mêmes murs de bronze, les mêmes lampes de métal luisantes. De l'autre côté se trouvait une porte sous laquelle ne brillait aucune lumière. Lift vérifia des deux côtés qu'il n'y avait personne, puis se précipita vers la porte, l'entrouvrit, jeta un coup d'œil à l'intérieur et fit signe à Gox de l'y rejoindre.
« Il vaudrait mieux qu'on aille tout droit dans ce couloir, là-dehors, » chuchota Gox,
lorsqu'elle repoussa la porte en la laissant à peine entrebâillée.
« Par là, on trouvera les quartiers des vizirs. Ils doivent être vides, car tout le monde sera en train de le délibérer dans l'aile du premier.
« Tu connais la disposition du palais ?» demanda-t-elle en s'accroupissant dans la zone ombragée près de la porte. Il se trouvait dans une sorte de petit salon, avec deux fauteuils plongés dans l'ombre et une petite table.
« Ouais, » répondit Gox.
« J'ai mémorisé les cartes du palais avant de venir. Pas toi ?» Elle haussa les épaules.
« Je suis déjà venue ici une fois, » ajouta Gox. « J'ai regardé dormir le premier. »«
Tu as quoi ?»«
C'est un personnage public, » répondit Gox. « Il appartient à tout le monde. » On peut participer à une loterie pour venir le regarder dormir. Il faut entrer les gens par roulement toutes les heures.
Quoi ? Lors d'une journée spéciale ou quelque chose comme ça ?
Non, tous les jours. On peut aussi le regarder manger ou accomplir ses rituels quotidiens. S'il perd un cheveu ou se coupe un ongle, on aura peut-être même le droit de le garder en tant que relique.
Ça fait froid dans le dos.
Un peu.
Ces appartements, c'est dans quelle direction ? Demanda Lift.
Par là,
répondit Gox, en désignant un point du couloir extérieur sur sa gauche, la direction opposée par rapport au quartier des vizirs.
« Il vaut mieux que tu n'ailles pas par là, Lift. C'est là que les vizirs et tous les gens importants vont étudier les candidatures, en présence du premier.
Mais il est mort.
Le nouveau premier.
Ils ne l'ont pas encore choisi.
Ben, c'est un peu bizarre, » répondit Gox.
À la faible lumière qui s'échappait de la porte entrebâillée, elle le vit rougir, comme s'il savait à quel point tout ça était bizarre.
On n'est jamais sans premier. C'est juste qu'on ne sait pas encore qui c'est. Enfin, je veux dire, il est vivant, et il est déjà premier, en ce moment même. Simplement, il faut qu'on le trouve. Donc voilà, ses appartements, et les sillons et vizirs veulent se trouver en sa présence pendant qu'il décide qui il est, même si la personne pour laquelle il se décide n'est pas dans la pièce. C'est complètement absurde. Ben non, répondit Gox. C'est le gouvernement. Tout ça est très bien détaillé dans les codes et...
Il s'interrompit en voyant bâiller Lift. Les Azéens pouvaient se montrer sacrément assommants. Cela dit, ils savaient au moins saisir les allusions.
Enfin bref, reprit Gox, tous les gens qui se trouvent dehors, dans les jardins, espèrent être appelés pour un entretien privé. Mais on n'en arrivera peut-être pas là. Les Sions ne peuvent pas devenir premiers, vu qu'ils sont trop occupés à aller bénir des villages dans tout le royaume. Mais un vizir peut, lui. Et ils ont souvent les meilleures candidatures. En général, c'est un des leurs qui est choisi.
Les appartements du premier, déclara Lift. La nourriture est partie par là.
Qu'est-ce que tu as avec la nourriture ? Je vais manger leur dîner,
répondit-elle d'une voix basse mais intense. Gox clina des yeux surpris.
Tu vas quoi ?
Je vais manger leur nourriture, répéta Lift. Les riches mangent mieux que tout le monde.
Mais il y aura peut-être des sphères dans les quartiers des vizirs.
Ben, de toute manière, répondit-elle, je les dépenserai seulement pour acheter à manger. Il n'y avait rien d'amusant à voler des choses ordinaires. Elle voulait un véritable défi. Ces deux dernières années, elle avait choisi les endroits les plus difficiles où entrer. Ensuite, elle s'y était faufilée. Et elle avait mangé leur repas.
Allez,
dit-elle en s'écartant de la porte, avant de tourner dans la direction des quartiers du premier, sur la gauche.
Tu es complètement cinglé,
chuchota Gox.
Non, c'est juste que je m'ennuie.
Il regarda dans l'autre sens.
Je vais tenter les quartiers des vizirs. Comme tu veux. Mais à ta place, je préférerais remonter. T'es pas assez entraîné pour ce genre de choses. Si tu t'éloignes de moi, tu vas t'attirer des ennuis.
Il hésita, puis se faufila dans la direction des quartiers des vizirs. Lift leva les yeux au ciel.
Pourquoi les avoir accompagnés ?
Demanda Windle en se faufilant hors de la pièce.
Pourquoi ne pas vous être infiltré seul ? C'est Tixic qui a découvert cette histoire d'élection,
répondit-elle.
Il m'a dit que c'était une bonne soirée pour s'infiltrer dans le palais. Je lui devais bien ça. Et puis je voulais être là au cas où il s'attirerait des ennuis. J'aurais peut-être besoin de l'aider.
Pourquoi prendre cette peine ?
Pourquoi, en effet ? Il faut bien que quelqu'un s'en soucie,
répondit-elle en s'avançant dans le couloir.
Il y a trop peu de gens qui le font ces jours-ci.
Vous dites ça tout en venant ici pour voler les gens.
Ben oui. Je vais pas leur faire de mal.
Vous avez un sens de la moralité très curieux, maîtresse.
Ne dis pas de bêtises, répondit-elle. Tous les sens de la moralité sont curieux.
J'imagine. Surtout pour un néantifère.
Je ne suis pas.
Elle sourit et pressa le pas en direction des appartements du premier. Elle savait qu'elle les trouverait quand elle apercevrait des gardes au bout d'un couloir latéral.
Ouais,
cette porte-là était tellement belle qu'elle appartenait forcément à un empereur. Seuls les gens super riches construisaient des portes sophistiquées. Il fallait avoir de l'argent qui vous sortait par les oreilles pour le consacrer à une porte. Les gardes posaient problème. Lift s'agenouilla et risqua un coup d'œil au-delà du tournant. Le couloir menant aux appartements de l'empereur était étroit, comme une ruelle. C'était malin. Difficile de s'infiltrer discrètement. Et ces deux gardes-là n'étaient pas du genre à s'ennuyer. Plutôt à se dire « Faut qu'on reste planté ici, avec l'air très furieux. » Ils se tenaient aussi droits que si on leur avait collé un balai dans l'arrière-train. Elle leva les yeux. Le couloir était haut. Les riches aimaient les trucs hauts. S'ils avaient été pauvres, ils auraient construit un autre étage là-haut pour loger leurs tantes et leurs cousins. Au lieu de quoi, les gens riches gaspillaient de l'espace, en prouvant qu'ils avaient assez d'argent pour pouvoir se le permettre. Ça semblait parfaitement rationnel de les voler.
« Là !»
chuchota Lift en désignant une petite corniche décorée qui courait le long du mur en hauteur. Elle ne devait pas être assez large pour y marcher, sauf quand on était Lift. Ce qu'elle était, par chance. Là-haut aussi, il faisait sombre. Les lustres étaient des modèles qui pendouillaient, et ils descendaient assez bas, avec des miroirs qui reflétaient la lumière de leur sphère vers le sol.
« On monte !» dit-elle.
Windle soupira.
« Il faut que tu fasses ce que je dis, sinon je vais t'élaguer. »« Vous allez m'élaguer ?»«
Ben oui. » Ça sonnait menaçant, non ? Windle poussa vers le haut du mur pour lui fournir des poignées. Les lianes qu'il avait laissées, derrière eux à travers le couloir, disparaissaient déjà, se transformaient en cristal, puis tombaient en poussière.
Pourquoi est-ce qu'il ne te remarque pas ?
Chuchota Lift. Elle ne lui avait jamais posé cette question, malgré les mois qu'ils avaient passés ensemble.
« C'est parce que seuls les gens qui ont le cœur pur peuvent te voir. »«
Vous n'êtes pas sérieuse. »«
Ben quoi ? Ça collerait bien avec les légendes, les histoires et tout. » »«
Oh, la théorie en elle-même n'est pas ridicule, » répondit Windle, qui parlait à travers un morceau de liane à côté d'elle, dont les filaments verts remuaient comme des lèvres. « C'est simplement l'idée que vous puissiez vous considérer, vous, comme ayant le cœur pur. »«
Mais si, je suis pure !»
chuchota Lift, qui grimpait à grand renfort de grognements.
« Je suis une enfant et tout ça. Sainte famine, je suis tellement pure que je rote pratiquement des arcs-en-ciel. »
Windle soupira de nouveau. Il adorait faire ça, tandis qu'ils atteignaient la corniche. Il se mit à pousser le long du bord pour l'élargir, et Lift monta dessus. Elle y trouva prudemment son équilibre, puis adressa un signe de tête à Windle. Il poussa un peu plus loin le long de la corniche, puis revint en arrière et monta le long du mur en direction d'un point situé au-dessus de la tête de Lift. À partir de là, il poussa à l'horizontale pour lui donner prise. Avec les 2 cm de liane en plus sur la corniche et la poignée au-dessus d'elle, elle parvint à avancer sur le côté, ventre tourné contre le mur. Elle inspira profondément, puis tourna dans le couloir où se trouvaient les gardes. Elle progressa lentement, tandis que Windle continuait à s'activer devant elle, renforçant la prise pour ses mains et ses pieds. Les gardes ne poussèrent pas de cris. Elle était en train d'y arriver.
« Ils ne peuvent pas me voir, » expliqua Windle, qui poussa près d'elle pour créer une nouvelle rangée de poignées, « car j'existe principalement dans le royaume cognitif, bien que j'ai déplacé ma conscience vers ce royaume-ci. Je peux me rendre visible aux yeux de n'importe qui, si je le désire. » Même si ce n'est pas facile pour moi. D'autres Sprens sont plus doués pour ça, alors que certains ont le problème inverse. Évidemment, quelle que soit la façon dont je me manifeste, personne ne peut me toucher, car je possède à peine assez de substances dans ce royaume-ci. Personne d'autre que moi,
murmura Lift en avançant très lentement le long du couloir. Vous ne devriez pas pouvoir non plus, répondit-il d'une voix perturbée. Qu'avez-vous demandé quand vous avez rendu visite à ma mère ? Lift n'était pas obligée de répondre à cette question, surtout face à un foudre de néantifères. Elle atteignit enfin le bout du couloir. La porte se trouvait au-dessus d'elle. Malheureusement, c'était exactement là que se tenaient les gardes.
« Ça ne paraît pas assez bien préparé, maîtresse, » commenta Windle. « Aviez-vous réfléchi à ce que vous feriez précisément une fois arrivée ici ?»
Elle hocha la tête. « Alors ?»«
Attends, »
chuchota-t-elle. Ce qu'ils firent donc, avec Lift plaqué de tout son long contre le mur, les talons dépassant dans le vide à plus de 4 mètres au-dessus des gardes. Elle n'avait pas envie de tomber. Elle était persuadée d'être assez géniale pour y survivre. Mais s'il la voyait, il mettrait fin au jeu. Elle serait obligée de s'enfuir et elle n'aurait jamais son dîner. Fort heureusement, et malheureusement tout à la fois, elle avait deviné juste. Un garde apparut à l'autre bout du couloir, l'air essoufflé et extrêmement contrarié. Les 2 autres gardes le rejoignirent en courant. Il se retourna en désignant l'autre direction. Elle tenait là sa chance. Windle fit pousser une liane vers le bas et Lift s'en empara. Elle sentait les cristaux dépasser entre les vrilles, mais ils étaient lisses et munis de facettes, plutôt qu'anguleux et tranchants. Elle se laissa tomber, avec la liane lisse entre les doigts, et s'arrêta en tirant dessus juste avant d'atteindre le sol. Elle ne disposait que de quelques secondes.
« Surpris un voleur en train de piller des quartiers des vizirs !» expliquait le garde qui venait d'arriver. « Il se peut qu'il y en ait d'autres. Gardez l'œil. Par Yaezir en personne. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient osé. Ce soir en particulier. »
Lift entrebâilla la porte des appartements de l'empereur et risqua un coup d'œil à l'intérieur. Grande pièce. Hommes et femmes attablés. Personne ne regardait dans sa direction. Elle se faufila par la porte. Puis elle devint géniale. Elle se baissa, se propulsa vers l'avant d'un coup de pied, et l'espace d'un instant, le sol, le tapis et le bois qui le recouvraient perdirent toute prise sur elle. Elle se mit à glisser comme sur la glace
et franchit sans un bruit un intervalle de 3 mètres.
Rien ne pouvait la retenir quand elle devenait fluide comme ça. Les doigts dérapaient sur elle et elle pouvait glisser éternellement. Elle pensait qu'elle ne s'arrêterait jamais, à moins d'éteindre son pouvoir génial. Elle glisserait jusqu'à l'océan lui-même. Ce soir, elle s'arrêta sous la table, utilisant ses doigts, qui n'étaient pas fluides, puis supprima la fluidité de ses jambes. Son ventre protesta bruyamment. Il fallait qu'elle mange. Très vite, ou il n'y aurait plus de pouvoir génial pour elle.
Pour des raisons qui m'échappent, vous faites partie du royaume cognitif, déclara Windle, qui s'enroule après d'elle et crée un réseau de lianes capable de former un visage. C'est la seule réponse que je trouve au fait que vous soyez capable de toucher l'esprit. Et vous êtes capable de métaboliser la nourriture pour la transformer directement en fulgiflamme. Elle haussa les épaules. Il prononçait toujours ce genre de mots, pour essayer de l'embrouiller, ce famine de néantifère. Eh bien, elle n'allait pas lui répondre. Pas maintenant. Les hommes et les femmes qui se tenaient autour de la table risquaient d'entendre sa voix, même s'ils n'entendaient pas celle de Windle. La nourriture se trouvait ici, quelque part. Elle en flairait l'odeur. Mais pourquoi ? Poursuivit Windle. Pourquoi vous a-t-elle donné cet incroyable talent ? Pourquoi une enfant ? L'humanité compte des soldats, des rois éminents, d'incroyables érudits. À la place, c'est vous qu'elle a choisi.
Votre candidature était clairement la meilleure, d'Alexis.
Pardon ? J'ai fait 3 fautes d'orthographe rien que dans le premier paragraphe.
Je n'ai rien remarqué.
Vous n'avez ? Bien sûr que si, vous l'avez remarqué.
Mais c'est inutile, car la dissertation d'Axic était manifestement supérieure à la mienne.
Ne m'impliquez pas dans la discussion. Nous m'avons disqualifiée. Je ne suis pas apte à devenir premier. J'ai des problèmes de dos.
Ashnod des Sages aussi en avait, et il a été l'un des plus grands premiers émuliens.
Bah ! Ma dissertation était médiocre, et vous le savez bien.
Windle vint se placer à côté de Lift. Mère a renoncé à votre espèce. Elle ne s'y intéresse plus. Maintenant qu'il n'est plus là.
Ces disputes sont indignes de nous, dit une voix féminine autoritaire. Nous devrions voter. Les gens attendent.
Désignez donc un de ces crétins dans les jardins.
Leur dissertation était atroce. Regardez simplement ce que Pandry a écrit en haut de la sienne.
Oh là, je n'en comprends pas la moitié, mais ça paraît effectivement insultant.
Voilà qui retint enfin l'attention de Lift. Elle leva les yeux vers la table au-dessus d'elle. Des insultes dignes de ce nom ? Allez, se dit-elle, va en lire quelques-unes.
Il va falloir que nous choisissions l'un d'entre eux, dit l'autre voix, qui semblait pleine d'autorité. Par les Cadacix et les étoiles, quel casse-tête ! Que faisons-nous quand personne ne veut devenir premier ?
Personne ne voulait être premier ? Le pays tout entier avait-il soudain développé un peu de bon sens ? Lift poursuivit. Ça semblait très amusant d'être riche, mais devoir diriger un si grand nombre de gens, une sacrée corvée, oui.
Peut-être devrions-nous choisir la pire candidature, déclara l'une des voix. Dans cette situation, ça indiquerait qui est le candidat le plus intelligent.
6 monarques différents tués, dit une nouvelle voix. En 2 mois seulement, des hauts princes massacrés dans tout l'Est, des chefs religieux, et ensuite 2 premiers assassinés la même semaine. Bourrasque, j'en viendrais presque à croire qu'une nouvelle désolation s'abat sur nous.
Une désolation sous la forme d'un seul homme. Yaezir, aie pitié de celui que nous choisirons. C'est une condamnation à mort. En l'état actuel des choses, nous avons déjà trop tardé. Ces semaines d'attente sans premier ont été nuisibles pour Azir. Choisissons simplement la pire candidature, dans cette pile-ci.
Et si nous choisissions quelqu'un qui soit parfaitement médiocre ? N'est-ce pas notre devoir de nous soucier du royaume, indépendamment du risque encouru par la personne que nous choisirons ?
Mais en choisissant le meilleur d'entre nous, nous condamnons notre élément le plus brillant à mourir par l'épée. Yaezir nous garde. Sion et Tide, une prière pour demander conseil serait appréciée. Nous avons besoin que Yaezir en personne nous montre la voie. Si nous choisissons la bonne personne, peut-être sa main la protégera-t-elle.
Lift atteignit le bout de la table et aperçut un festin déployé sur une table plus petite à l'autre extrémité de la pièce. Cet endroit était très azéen. Partout des arabesques de broderie, des tapis si exquis qu'une pauvre femme avait dû devenir aveugle pour les tisser. Des couleurs sombres, des lumières basses, des tableaux au mur. Tiens, se dit Lift, quelqu'un a gratté le visage de celui-là. Qui pouvait bien abîmer un tableau comme ça, surtout un aussi joli, montrant tous les héros alignés ? En tout cas, personne ne semblait touché à ce festin. L'estomac de Lift grondait, mais elle attendait que quelque chose détourne leur attention. Ça se produisit peu de temps après. La porte s'ouvrit. Sans doute les gardes venus faire leur rapport sur le voleur qu'ils avaient découvert. Pauvre Gox, il faudrait qu'elle l'aide à s'échapper plus tard. Pour l'instant, c'était l'heure de manger. Lift se hissa en avançant sur les genoux et utilisa son pouvoir génial pour rendre ses jambes fluides.
Elle glissa le long du sol et attrapa le pied de la table où reposait la nourriture. Son élan lui permit de pivoter d'un geste souple pour le contourner et se retrouver derrière la table. Elle s'y accroupit, masquée par la nappe au regard des personnes qui se trouvaient au centre de la pièce, et défluidifia ses jambes.
Parfait. Elle leva une main et s'empara d'un petit pain sur la table. Elle prit une bouchée, puis hésita. Pourquoi tout le monde s'était-il tué ? Elle risqua un coup d'œil par-dessus la table. Il venait d'arriver. Le grand Azéen, avec la marque blanche sur sa joue, en forme de croissant. Uniforme noir, avec une double rangée de boutons en argent sur l'avant du manteau, duquel dépassait le col argenté d'une chemise à mi-donnée. Ses gants épais possédaient des crispins qui lui remontaient jusqu'au milieu des avant-bras. Des yeux morts. C'était l'obscur en personne. Oh non.
Que voulez-vous ? Demanda d'une voix autoritaire l'une des vizirs,
une femme vêtue de l'un de leurs grands manteaux aux manches trop larges. Son bonnet possédait un motif différent, qui jurait de manière assez spectaculaire avec le manteau.
Je suis ici, répondit l'obscur, pour chercher une voleuse. Êtes-vous bien conscient de l'endroit où vous vous trouvez ? Comment osez-vous interrompre ?
J'apporte les formulaires adéquats, répliqua l'obscur.
Il parlait d'une voix totalement dépourvue d'émotion. Ni agacement qu'on lui tienne tête, ni arrogance, ni manière pompeuse. Absolument rien. L'un de ses sous-fifres entra derrière lui. Un homme en uniforme noir et argent moins orné. Il tendit à son maître une pile soigneuse de papier.
C'est bien beau, les formulaires, répondit la vizire. Mais le moment est très mal choisi, monsieur l'agent, pour...
Lift se précipita. Ses réflexes prirent enfin le dessus sur sa surprise et elle se mit à courir, sautant par-dessus un divan qui la séparait de la porte du fond. Windle se déplaçait à toute allure à côté d'elle. Elle arracha un morceau de pain à l'aide de ses dents. Elle allait avoir besoin de nourriture. Cette porte devait donner sur une chambre et une chambre posséderait une fenêtre. Elle ouvrit la porte à toute volée et s'y précipita. Quelque chose s'abattit depuis les ombres de l'autre côté de la porte. Un gourdin l'atteignit en pleine poitrine. Ses côtes se fêlèrent, le souffle coupé. Lift tomba par terre à plat ventre. Un autre des sous-fifres de l'obscur sortit des ombres à l'intérieur de la chambre.
Même les individus les plus chaotiques, déclara l'obscur, peuvent devenir prévisibles si l'on procède aux recherches adéquates.
Ses pas lourds résonnèrent sur le sol derrière Lift. Elle serra les dents, recroquevillée par terre. Pas assez mangé. Elle avait terriblement faim. Les quelques bouchées qu'elle avait prises un peu plus tôt commencèrent à faire effet à l'intérieur de son corps. Elle sentit la sensation familière comme une tempête dans ses veines. Une version liquide du pouvoir génial. La douleur disparut de sa poitrine à mesure qu'elle guérissait. Windle se mit à dessiner un cercle autour d'elle, pareil à un petit lasso de lianes d'où poussaient des feuilles, qui couraient sur le sol pour l'entourer, encore et encore. L'obscur s'approcha.
« Fonce !»
Elle se releva sur les mains et les genoux. Il la saisit par l'épaule, mais elle parvint à lui échapper. Elle invoqua son pouvoir génial. L'obscur lança quelque chose dans sa direction. Le petit animal qui ressemblait à un crémillon, mais avec des ailes. Des ailes attachées, des pattes ligotées. Il possédait un petit visage étrange, qui n'évoquait pas celui d'un crabe, comme chez les crémillons. Il était plus proche de celui des hashdogs, avec un museau, une gueule et des yeux. Il semblait maladif, et ses yeux miroitants trahissaient la douleur. Comment le devinait-elle ? La créature aspira le pouvoir génial de Lift. Elle le vit réellement s'échapper, sous forme d'une substance blanche scintillante qui partait d'elle vers le petit animal. Il ouvrit la gueule pour aspirer. Soudain, Lift se sentit très fatigué et très, très affamé. L'obscur tendit l'animal à l'un de ses sous-fifres, qui le fit disparaître dans un sac noir qu'il fourra ensuite dans sa poche. Lift était persuadé que les vizirs, qui formaient une masse indignée autour de la table, n'avaient rien vu de la scène, avec l'obscur qui leur tournait le dos et les deux sous-fifres qui leur bloquaient la vue.
« Ne laissez pas de sphère à proximité d'elle !» ordonna l'obscur. « Il ne faut pas lui permettre d'investir !»
Lift éprouva une terreur, une panique qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Depuis l'époque où elle vivait à Ral et Lorim. Elle résista, se débattit, mordit la main qui la retenait. L'obscur n'émit pas même un grognement. Il la redressa d'un coup et un autre sous-fifre la prit par les bras, qu'il tira brusquement en arrière jusqu'à lui arracher un hoquet de douleur. Non, elle s'était libérée. On ne pouvait pas l'emmener comme ça. Windle continuait à tourner autour d'elle sur le sol, perturbée. C'était quelqu'un de bien pour un néantifère. L'obscur se tourna vers les vizirs.
« Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. »«
Maîtresse !» s'exclama Windle. « Ici !» Le petit pain à moitié mangé reposait sur le sol. Elle l'avait laissé tomber quand elle avait reçu le coup de gourdin. Windle se précipita vers lui, mais ne put rien faire de plus que de le faire trembler. Lift se débattit, cherchant à s'échapper, mais sans cette tempête à l'intérieur d'elle, elle n'était qu'une enfant dans les griffes d'un soldat expérimenté.
« Je suis profondément contrariée par la nature de cette ingérence, monsieur l'agent, » répondit la vizière en chef en parcourant la pile de feuilles que l'obscur avait laissé tomber. « Vos papiers sont en ordre, et je vois que vous avez même inclus une demande d'autorisation, accordée par les arbitres, de fouiller le palais lui-même à la recherche de votre gosse des rues. Vous n'aviez tout de même pas besoin de perturber un conclave sacré. Et pour une voleuse ordinaire, rien que ça.
Nul homme ou femme n'est au-dessus de la justice. » répondit l'obscur d'une voix parfaitement calme. « Et cette voleuse est tout sauf ordinaire. Avec votre permission, nous allons cesser de vous déranger. »
Il semblait bien se moquer qu'il lui accorde ou non cette permission. Il se dirigea vers la porte d'un pas vif, et son sous-fifre entraîna Lift derrière lui. Elle tendit le pied vers le petit pin, mais ne parvint qu'à le lancer un peu plus loin, sous la longue table, près des vizirs.
« Je vois ici un permis d'exécution. » déclara la vizire d'une voix surprise en brandissant la dernière page de la pile. « Vous allez tuer cet enfant ? Pour un simple larcin ?»«
Tuer ? Non. Non !»«
Pour ça et pour être entré par effraction dans le palais du premier, » répondit l'obscur en atteignant la porte, « et pour avoir interrompu un conclave en pleine séance. »
La vizire croisa son regard. Elle le soutint, puis se ratatina.
« Je... » dit-elle. « Ah ?» « Bien entendu, monsieur l'agent. »
L'obscur se détourna d'elle et ouvrit la porte. La vizire posa une main sur la table et leva l'autre vers sa tête. Le sous-fifre traîna Lift jusqu'à la porte.
« Maîtresse !» s'exclama Windle en se tortillant tout près. « Oh, oh là là ! Il y a quelque chose de franchement bizarre chez cet homme. Il n'est pas normal, pas normal du tout. Vous devez utiliser vos pouvoirs. »«
J'essaie. »
grommela-t-elle.
Vous avez trop maigri, déclara Windle. Ce n'est pas bon. Vous consommez toujours l'excédent. Vous avez trop peu de graisse. C'est peut-être là le problème. J'ignore comment ça fonctionne.
L'obscur hésita près de la porte et regarda les lustres bas du couloir au-delà, avec leurs miroirs et leurs gemmes scintillantes. Il leva la main et fit un geste. Le sous-fifre, qui ne tenait pas Lift, s'avança dans le couloir et découvrit les cordes des lustres. Il les dénoua et tira dessus pour les faire remonter. Lift tenta d'invoquer son pouvoir génial. Rien qu'un peu plus. Il ne lui en fallait qu'un peu. Son corps était épuisé, vidé. Elle avait effectivement trop forcé. Elle se débattit, de plus en plus paniquée, de plus en plus désespérée. Dans le couloir, le sous-fifre attacha les lustres très haut dans les airs. Non loin de là, le regard de la chef des vizirs passa de l'obscur à Lift.
« S'il vous plaît, »
articula Lift. La vizire repoussa la table d'un air lourd de sous-entendu. Elle accrocha le coude du sous-fifre qui retenait Lift, et il jura et lâcha prise de cette main-là. Lift se précipita vers le sol,
s'arrachant à sa poigne.
Elle s'avança en se tortillant pour se réfugier sous la table. Le sous-fifre la saisit par les chevilles.
« Que s'est-il passé ? » demanda l'obscur d'une voix glaciale et dépourvue d'émotion.
« J'ai glissé !» répondit la vizire.
« Faites attention à vous. »«
Est-ce une menace, monsieur l'agent ? Je suis hors de votre portée. »«
Personne n'est au-delà de ma portée. »
Toujours aucune émotion. Lift se débattit sous la table et donna un coup de pied au sous-fifre. Il jura tout bas, la tira par les jambes, puis la força à se remettre debout. L'obscur le regarda faire, le visage inexpressif. Elle le fixa bien droit dans les yeux. Un petit pain à moitié dévoré dans la bouche, sans cesser de la toiser. Elle mâchonna très vite, puis avala. Pour une fois,
Il exprima une émotion. L'incrédulité.
Tout ça, dit-il, pour un petit pain.
Lift ne répondit rien.
Allez.
Ils l'entraînèrent le long du couloir, puis tournèrent au coin. L'un des sous-fifres les précéda d'un air décidé pour retirer les sphères des lampes accrochées au mur. Était-il en train de piller cet endroit ? Non, car après son passage, le sous-fifre alla remettre les sphères en place.
Allez.
Ils passèrent devant un garde du palais dans le couloir plus grand au-delà. Il remarqua quelque chose chez l'obscur. Peut-être cette corde attachée autour du haut de son bras, dont les fils dessinaient une séquence azéenne de couleurs, et le salua.
« Monsieur l'agent, vous en avez trouvé un autre ?»
L'obscur s'arrêta et regarda le garde ouvrir la porte près de lui. À l'intérieur, Gox était assis sur une chaise, affalé entre deux autres gardes.
« Alors, vous aviez bien des complices ?» cria l'un des gardes à l'intérieur de la pièce.
Il gifla Gox au visage. Windle émit un hoquet juste derrière elle.
Alors ça, c'était déplacé. Allez.
Celle-ci ne vous concerne pas, dit l'obscur garde. Et il attendit, tandis que l'un de ses sous-fifres exécutait cette étrange séquence de mouvements avec une gemme.
Pourquoi donc s'en souciait-il?
Quelque chose remua à l'intérieur de Lift, pareil au petit tourbillon de vent qui accompagnait la venue des tempêtes. L'obscur se tourna vers elle, d'un mouvement vif.
Quelque chose est en train.
Son pouvoir génial était revenu. Lift se retrouva fluide, dans tout son corps à l'exception de ses paumes et de ses pieds. Elle retira brutalement son bras, qui glissa entre les doigts du sous-fifre, puis se propulsa vers l'avant d'un coup de pied et tomba à genoux. Quand l'obscur voulut l'attraper, elle lui fila entre les doigts. Windle laissa échapper un cri de joie et se mit à filer à côté d'elle, tandis qu'elle se propulsait vers l'avant en repoussant le sol avec des gestes évoquant la nage, utilisant chaque geste de ses bras pour se propulser vers l'avant. Elle rasa le sol du couloir du palais, où ses genoux glissaient comme s'ils étaient couverts de graisse. Ce n'était pas là une posture très digne. La dignité était pour les riches qui avaient le temps d'inventer des jeux pour se distraire ensemble. Elle se mit à avancer très vite, si vite qu'elle avait du mal à se contrôler lorsqu'elle relâchait son pouvoir génial et tentait de se relever d'un bond. Elle alla percuter un mur au bout du couloir et s'affala en un tas de membres désordonnés. Elle en émergea en souriant. Ça s'était nettement mieux déroulé que lors de ses tentatives précédentes. La première avait été extrêmement embarrassante. Elle était alors tellement fluide qu'elle n'arrivait même pas à rester sur ses genoux.
« Lift !» s'écria Windle. « Derrière toi !»
Elle jeta un coup d'œil le long du couloir. Elle aurait juré que son poursuivant luisait faiblement. Et il courait beaucoup trop vite. L'obscur aussi était génial.
C'est pas juste !
Cria Lift en se relevant précipitamment avant de s'élancer le long d'un couloir latéral. La direction d'où elle était venue lorsqu'elle s'était infiltrée avec Gox. Son corps ressentait de nouveau la fatigue. Un seul petit pain ne la portait pas très loin. Elle se précipita le long du couloir somptueux, ce qui fit sursauter une servante qui recula avec un cri aigu comme si elle venait d'apercevoir un rat. Lift prit un tournant en dérapant, fonça en direction des bonnes odeurs et s'engouffra dans les cuisines. Elle traversa en courant la foule chaotique qui s'y trouvait. La porte s'ouvrit à toute volée derrière elle, la seconde d'après. L'obscur. Ignorant les cuisiniers surpris, Lift bondit sur un comptoir allongé, fluidifiant sa jambe pour glisser dessus en étant tournée sur la hanche, renversant des bols et des casseroles dans un grand fracas. Elle descendit à l'autre extrémité du comptoir tandis que l'obscur se frayait un chemin à travers les cuisiniers agglutinés. Levant bien haut sa lame d'éclat, il ne jura pas pour exprimer son agacement. Un type devait toujours jurer. Ça faisait paraître les gens plus réels. Mais bien entendu, l'obscur n'était pas une véritable personne. Elle n'avait pas beaucoup de certitudes, mais elle avait au moins celle-là. Lift s'empara d'une saucisse sur une assiette fumante, puis se réfugia dans le couloir des serviteurs. Elle mâchonna tout en courant, avec Windle qui courait le long du mur à côté d'elle, laissant une piste de lianes vert foncé derrière lui.
« Où allons-nous » demanda-t-il.
« Loin !»
La porte du couloir des serviteurs s'ouvrit en grand derrière elle. Lift tourna à un coin, surprenant un écuyer. Elle devint fluide, puis s'élança sur le côté et l'esquiva aisément en glissant le long de l'étroit passage.
« Que suis-je donc devenu ?
s'exclama Windle. Me voilà qui vole dans la nuit, poursuivi par des abominations. J'étais un jardinier, un merveilleux jardinier. Les cryptiques, comme les sprennes d'honneur, venaient voir les cristaux que je faisais pousser à partir des esprits de votre monde. Et maintenant, regardez-moi ça. Que suis-je donc devenu ?
Un géniard ! Répliqua Lift en haletant.
N'importe quoi !
Alors vous l'avez toujours été ?
Elle regarda par-dessus son épaule. L'obscur repoussa l'écuyer d'un air désinvolte et lui fonça dessus pratiquement sans s'interrompre. Elle devait trouver une issue. Une fenêtre. Sa fuite l'avait ramenée à son point de départ, près des appartements du premier. Elle choisit instinctivement une direction et se mit à courir. Mais l'un des sous-fifres de l'obscur apparut à un coin dans cette direction. Lui aussi portait une lame d'éclat. Sacrée famine de malchance. Lift partit dans l'autre sens et croisa l'obscur en train d'émerger du couloir des serviteurs. Elle esquiva de justesse un coup de sa lame en se baissant, puis en se fluidifiant pour glisser sur le sol. Elle réussit cette fois à se lever sans trébucher. C'était déjà ça.
Mais qui sont ces hommes ? Demanda Windle derrière elle.
Lift répondit par un grognement.
Pourquoi s'intéressent-ils tellement à vous ? Il y a quelque chose dans ces armes qu'ils transportent.
Des lames d'éclat, dit Lift. Elles valent un royaume entier. Elles sont construites pour tuer les néantifères. Et ils en avaient deux. C'était complètement dingue.
Toi, dit-elle en courant toujours. C'est après toi qu'ils en ont.
Quoi ? Bien sûr que non.
Mais si !
Ne t'inquiète pas, tu m'appartiens. Je vais pas les laisser t'attraper.
C'est une marque de loyauté touchante, et c'est aussi un peu insultant.
Mais ce n'est pas après moi qu'il... Le deuxième des sous-fifres de l'obscur sortit dans le couloir devant elle. Il tenait Gox. Et il appuyait un couteau contre la gorge du jeune homme. Lift s'arrêta en trébuchant. Gox, complètement dépassé, geignait entre les mains de son ravisseur.
« Ne bougez pas !» dit le sous-fifre. « Ou je le tue !»«
Famine de salopard !» répondit Lift en crachant sur le côté.
« Alors ça, c'est un coup bas !»
L'obscur approcha derrière elle à pas lourds et l'autre sous-fifre le rejoignit. Ils encerclèrent Lift. L'entrée des appartements du premier se trouvait un peu plus loin. Et les vizirs et les sions avaient afflué dans le couloir où ils jacassaient entre eux d'un air outragé. Gox pleurait. « Pauvre crétin !» Ces choses-là se terminaient rarement bien. Lift suivit son instinct, ce qu'elle faisait de toute manière la plupart du temps, et décida de mettre le sous-fifre au pied du mur en se précipitant vers lui. C'était un policier. Jamais il ne tuerait un prisonnier de sang... Le sous-fifre trancha la gorge de Gox. Un sang écarlate jaillit en maculant les vêtements de Gox. Le sous-fifre le lâcha, puis recula en titubant, comme surpris par ce qu'il venait de faire. Lift se figea net. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas. L'obscur se saisit d'elle par derrière.
Voilà qui était bien mal exécuté, dit-il à son sous-fifre, d'une voix dépourvue d'émotion.
Lift l'entendit à peine. Tout ce sang.
Vous serez puni.
Mais,
répondit le sous-fifre,
j'étais obligé de le faire, comme j'avais menacé.
Vous n'avez pas rempli les formulaires nécessaires dans ce royaume pour tuer cet enfant, répliqua l'obscur.
Ne sommes-nous pas au-dessus de leur loi ?
L'obscur relâcha Lift et s'avança pour gifler son sous-fifre.
Sans loi, il n'y a rien. Vous allez vous soumettre à leurs règles et accepter les préceptes de la loi. C'est tout ce que nous possédons, la seule chose sûre en ce monde.
Lift regarda fixement le garçon agonisant, qui tenait ses mains contre son cou. Comme pour arrêter le flot de sang. Ses larmes. L'autre sous-fifre approcha de Lift par derrière.
Courez !
Cria Windle. Elle sursauta.
Courez !
Lift s'élança. Elle dépassa l'obscur et traversa le groupe de vizirs qui regardaient Gox mourir avec des hoquets et des cris. Elle fonça à toutes jambes dans les appartements du premier, glissa le long de la table, s'empara d'un nouveau petit pain sur le plateau et déboula dans la chambre. Elle sortit par la fenêtre la seconde d'après.
« Monte !»
dit-elle à Windle, avant de fourrer le petit pain dans sa bouche. Il avança très vite le long du mur, et Lift grimpa en nage. La seconde d'après, l'un des sous-fifres sautait par la fenêtre, au-dessous d'elle. Il ne leva pas les yeux. Il fonça dans les jardins et se tortilla pour la chercher, sa lame d'éclat scintillant dans le noir, en reflétant la lumière des étoiles. Lift atteignit sans encombre les hauteurs du palais, cachée par les ombres. Elle s'accroupit, main autour des genoux, envahie d'un grand froid.
« Vous le connaissiez à peine, » déclara Windle. « Et cependant, vous le pleurez. »
Elle hocha la tête.
« Vous avez souvent vu la mort, » poursuivit Windle. « Je le sais. N'y êtes-vous pas accoutumé ?»
Elle fit signe que non. En bas, le sous-fifre à sa recherche s'éloignait de plus en plus. Elle était libre. Grimper sur le toit, se glisser de l'autre côté, disparaître. Était-ce un mouvement qu'elle voyait à la lisière du terrain ? Oui. Ces ombres mouvantes étaient des hommes. Les autres voleurs gravissaient leurs murs pour disparaître dans la nuit. Oukin était parti sans son neveu, comme elle l'avait prévu. Qui pleurerait Gox ? Personne. Il serait oublié. Abandonné. Lift relâcha ses jambes et traversa en rampant le bulbe arrondi du toit, en direction de la fenêtre par laquelle elle était entrée un peu plus tôt. Les lianes qu'elle avait fait surgir des graines, contrairement à celles que créait Windle, étaient toujours vivantes. Elle sortait par la fenêtre, les feuilles frémissant au vent. « File, » lui dictait son instinct. « Va-t'en.
Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, » chuchota-t-elle.
« L'arrêt. Régénération. » compléta-t-il. Chaque lien accorde un pouvoir sur deux flux. Vous pouvez influencer la façon dont les choses poussent.
Je peux m'en servir pour aider Gox ?
Si vous étiez mieux formé, oui. En l'état actuel des choses, j'en doute fort. Vous n'êtes ni très puissante, ni très entraînée. Sans compter qu'il est peut-être déjà mort. Elle toucha l'une des lianes. Pourquoi vous en souciez ? Demanda Windle une fois de plus. Il semblait curieux. Il ne la défiait pas. Il cherchait à la comprendre.
Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse.
Pour une fois, Lift ignora ce que lui dictait son instinct et choisit de grimper par la fenêtre. Elle traversa la pièce en trombe. Elle sortit dans le couloir de l'étage, rejoignit l'escalier, le descendit à toutes jambes, sautant parfois plusieurs marches. Franchit une porte, tourna à gauche, remonta le couloir, prit de nouveau à gauche. Un attroupement dans le couloir luxueux. Lift l'atteignit, puis s'y fraya un chemin en se faufilant. Elle n'avait pas besoin de son pouvoir génial pour ça. Elle se faufilait dans des interstices de la foule depuis qu'elle avait appris à marcher. Gox était étendu dans une flaque de sang qui avait assombri le somptueux tapis. Les vizirs et les gardes l'entouraient, parlant à mi-voix. Lift rampa jusqu'à lui. Son corps était encore chaud, mais le sang paraissait avoir cessé de couler. Ses yeux étaient fermés.
« Trop tard ?» chuchota-t-elle.
« Je l'ignore, » répondit Windle en s'enroulant près d'elle.
« Qu'est-ce que je dois faire ?»«
Je ne sais pas trop, maîtresse. La transition vers votre côté a été difficile et a laissé des lacunes dans ma mémoire, malgré les précautions prises par mon peuple. Je... »
Elle allongea Gox sur le dos, visage tourné vers le ciel. Il ne représentait pas grand-chose pour elle, en effet. Ils venaient à peine de se rencontrer. Et c'était un crétin. Elle lui avait dit de retourner en arrière. Mais c'était là ce qu'elle était, ce qu'elle devait être. Je me rappellerai ceux qui ont été oubliés. Lift se pencha vers l'avant, colla son front contre le sien et expira. Une substance chatoyante s'échappa de ses lèvres. Un petit nuage de lumière. Il resta suspendu devant la bouche de Gox. « Allez !» Il remua, puis s'insinua entre ses lèvres. Une main saisit Lift par l'épaule et l'écarta de Gox. Elle s'affaissa soudain épuisée. Réellement épuisée. Au point qu'il lui était même difficile de se tenir debout. L'obscur l'attira à lui pour l'éloigner de la foule. « Venez !» dit-il. Gox remua. Les vizirs laissèrent échapper des hoquets stupéfaits et reportèrent leur attention sur le garçon qui gémit, puis s'assit.
« Il semblerait que vous soyez une danse-corde, » déclara l'obscur en l'entraînant vers le couloir tandis que la foule s'approchait de Gox en bavardant.
Elle trébucha, mais il la redressa.
« Je m'étais demandé lequel des deux vous seriez. »«
Miracle !» s'exclama l'un des vizirs.
« Yaizir a parlé !»
déclara l'un des sions.
Danskord, répéta Lift. Je ne sais pas ce que c'est.
C'était autrefois un ordre glorieux, expliqua l'obscur tout en la guidant le long du couloir. Tous les ignoraient pour se concentrer sur Gox. Là où vous tâtonnez, c'était des créatures élégantes et splendides. Ils pouvaient courir sur la plus fine des cordes, danser sur les toits, traverser un champ de bataille comme des rubans portés par le vent.
Ça a l'air formidable.
Oui. Quel dommage qu'ils se soient toujours autant souciés de choses si dérisoires, tout en ignorant les plus capitales. Il semblerait que vous partagiez leur tempérament. Vous êtes devenue l'une d'entre eux.
C'était pas mon intention, répondit Lift.
J'en suis bien conscient.
Pourquoi vous me pourchassez?
Au nom de la justice. Il y a des tas de gens qui font des choses pas légales, répondit-elle. Elle devait s'obliger à faire sortir chaque mot. Parler lui donnait beaucoup de mal, réfléchir aussi. Elle était tellement fatiguée.
Vous auriez pu pourchasser des gros criminels, des assassins. Mais c'est moi que vous avez choisi. Pourquoi ça?
Les autres sont peut-être détestables, mais ils ne pratiquent pas des arts capables de ramener la désolation dans ce monde.
Ces mots étaient si froids.
Ce que vous êtes doit être éliminé. Lift se sentait engourdi. Elle tenta d'invoquer son pouvoir génial, mais elle l'avait entièrement consumé. Et même un peu plus que ça, sans doute.
L'obscur la retourna et l'appuya contre le mur. Elle ne pouvait plus tenir debout et s'affaissa en position assise. Windle alla se placer à côté d'elle, déployant une étoile de liane rampante. L'obscur s'agenouilla près d'elle. Il tendit la main.
Je l'ai sauvée, déclara Lift. J'ai fait quelque chose de bien, non?
La question du bien n'a pas sa place ici, répondit l'obscur. Sa lame d'éclat apparut entre ses doigts.
Vous vous en fichez totalement, hein?
Oui, répondit-il. En effet.
Ça ne devrait pas, répliqua-t-elle épuisée. Vous devriez essayer, je veux dire. À une époque, je voulais être comme vous, mais ça n'a pas marché. C'était comme si j'étais même pas vivante.
L'obscur leva sa lame. Lift ferma les yeux. Elle est pardonnée. La main de l'obscur se resserra sur son épaule.
Totalement épuisée, comme si quelqu'un l'avait soulevée par les orteils et l'avait pressée pour vider tout ce qu'elle contenait,
Lift s'obligea à ouvrir les yeux.
Gox s'arrêta en trébuchant près d'elle, respirant très fort. Derrière lui, les vizirs et les sions approchaient également. Les habits en sang, les yeux écarquillés, Gox serrait un bout de papier entre ses doigts. Il le lança vers l'obscur.
Je pardonne à cette fille. Libérez-la, monsieur l'agent.
Qui êtes-vous? Demanda l'obscur, pour faire une chose pareille.
Je suis le premier Akasix, déclara Gox. Le souverain d'Azir.
Ridicule.
Les Cadasix ont parlé, dit l'un des sions.
Les héros? Demanda l'obscur. Ils n'ont rien fait de tel. Vous vous trompez.
Nous avons voté, répliqua un vizir. La candidature de ce jeune homme était la meilleure.
Quelle candidature? Demanda l'obscur.
C'est un voleur. Il a accompli le miracle de la régénération, dit l'un des sions les plus âgés. Il était mort et il est revenu. Quelle meilleure candidature pourrions-nous demander?
Un signe nous a été accordé, annonça la vizire en chef. Nous avons ici un premier capable de survivre aux attaques du tout en blanc.
Loué soit Yaezir, Cadasix des rois, puisse-t-il gouverner en toute sagesse. Ce jeune homme est le premier. Il l'a toujours été. Nous venons seulement de le comprendre et le prions de nous pardonner pour n'avoir pas entrevu la vérité plus tôt.
Toujours il en fut ainsi, ajouta le sion âgé, et toujours il en sera ainsi. Retirez-vous, monsieur l'agent. Vous avez reçu un ordre.
L'obscur étudia Lift. Elle répondit avec un sourire lasse. Qu'il voit donc ses dents, ce famine de type-là. C'était comme ça qu'il fallait faire. La lame d'éclat se transforma en brume. Il avait été vaincu, mais semblait s'en moquer. Pas un juron, pas même un plissement des yeux. Il se leva et enfila ses gants par les crispins, l'un après l'autre.
Yaezir soit loué, déclara-t-il, héros des rois.
Puisse-t-il régner en toute sagesse, s'il cesse un jour de baver. »
L'obscur s'inclina devant le nouveau premier, puis quitta la pièce d'un pas assuré.
« Quelqu'un connaît-il le nom de cet agent de police ?»
demanda l'un des vizirs.
« Quand avons-nous commencé à laisser des représentants de l'ordre réquisitionner des lames d'éclat ?»
Gox s'agenouilla à côté de Lift.
« Alors maintenant, t'es un empereur ou un truc comme ça »
dit-elle en fermant les yeux et en se laissant aller en arrière.
« Ouais, je suis toujours un peu perdu. Apparemment, j'ai accompli un miracle ou quelque chose dans le genre. »«
Ravi pour toi, » répondit Lift. « Je peux manger ton dîner ?»